Bonjour à toutes et à tous, Didier Delatte sur IDFM, culture, solidarité, environnement, il s'en passe de belles dans notre département, et c'est ici et maintenant, dans notre rendez-vous compte, évidemment.
Elle est née dans le Paris, 1790, comme une rose épanouie, au jardin des fleurs de lys. Marianne a cinq enfants qu'elle élève de son mieux. Marianne a maintenant quelques rides au coin des yeux. Dieu, mais que Marianne était jolie quand elle marche dans les rues de Paris en chantant à pleine voix. Ça ira, ça ira toute la vie.
C'est avec cette chanson de Michel Delpech, que Marianne était jolie, que j'accueille mon invité de ce jour. Alors, conformément à l'esprit d'IDFM, il s'agit d'une personnalité de proximité, engagée dans la vie locale, nous allons le voir dans quelques instants, mais qui connaît aussi parfaitement les coulisses d'une des premières institutions de notre démocratie française. Bonjour Monsieur Meuron.
Bonjour.
Engagement de proximité, donc, car vous avez été maire d'une commune du Val d'Oise, proche de nos studios, que je connais bien.
Saint-Leu-la-Forêt.
Voilà. Mais également, vous avez été sénateur du Val d'Oise.
Oui.
Voilà. Et donc, alors, nous n'allons pas évoquer vos engagements purement politiques, mais plutôt vous demander de dévoiler pour nous les coulisses de cette institution à la fois connue de tous les citoyens, en principe, et finalement mystérieuse pour la plupart d'entre nous. Pouvez-vous d'abord nous expliquer ce qu'est le Sénat et son rôle ?
En France, il y a deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, qui ont en fait les deux mêmes fonctions, de voter la loi et de contrôler le gouvernement. Mais le Sénat, donc ce qu'on appelle la chambre haute, Sénat, ça fait penser à un vieux mot. Sénat, c'est la chambre des anciens. Donc ça remontait à l'époque romaine. Le Sénat, c'est la chambre qui, en France, représente les collectivités territoriales. Et les sénateurs sont élus par ce qu'on appelle les grands électeurs. Donc c'est pour ça que les citoyens ne votent pas directement pour leurs sénateurs. Ceux qui votent et qui élisent leur sénateur, ou sénatrice, hein, bien sûr, bien entendu, ce sont ceux qui ont été déjà élus. Donc ce sont les maires, les maires adjoints, les conseillers municipaux des grandes villes, les députés, les conseillers régionaux, les conseillers départementaux. Il y a un peu plus de 80 000 grands électeurs en France. Et donc ces grands électeurs élisent les sénateurs. Et il y a 348 sénateurs qui représentent la France métropolitaine et d'outre-mer. Il y a également des sénateurs qui représentent les Français de l'étranger depuis quelques années. Donc 348 sénateurs. Et pour vous donner un exemple du nombre de sénateurs dans notre département, il y a 5 sénateurs dans le département et 10 députés. Donc les députés qui sont plus nombreux, 577, qui sont élus directement par les citoyens majeurs, bien sûr, français, plus de 18 ans. Donc on a 10 députés dans le Val d'Oise. Il y a 10 circonscriptions. Au sein d'une circonscription, on choisit un député. Et le sénateur, lui, représente la totalité du territoire. Donc moi, j'étais sénateur du Val d'Oise. Et donc je représentais donc l'ensemble du territoire. L'élection se fait tous les 6 ans, par moitié, au niveau national. Pendant longtemps, et les gens sont restés, j'ai été frappé par ça, pensaient que les sénateurs étaient élus pendant 9 ans. Parce que pendant très longtemps, effectivement, c'était 9 ans. C'était renouvelable par tiers. Là, donc, c'est 6 ans, renouvelable par moitié, donc par les grands électeurs.
D'accord. Donc, vous avez dit le Conseil des anciens. Pourtant, vous n'êtes pas ce qu'on appelle un ancien. Donc, est-ce qu'il y a un âge minimum déjà pour être sénateur ?
Alors, oui, il y a un âge minimum. Hein, alors, c'est pareil, ça n'a cessé de diminuer, puisque donc, c'était le Conseil des anciens. Il fallait avoir plus de 35 ans pour être élu. Maintenant, ça a baissé, c'est 21 ans. Et c'était, comme le nom Sénat, hein, vous regardez l'étymologie du Sénat, le mot Sénat, il fallait avoir de l'expérience, avoir un peu de vécu pour pouvoir représenter la nation, ce que je trouve avoir du sens. Et il se trouve que moi, j'ai été élu jeune sénateur, je n'étais pas le plus jeune à l'époque, mais je faisais partie du bureau d'âge, donc des plus jeunes, parce que j'étais élu à 46 ans. Mais j'avais déjà été maire, moi, depuis une dizaine d'années. Et pour représenter les collectivités territoriales, je considère, d'ailleurs, pour représenter les Français, je considère qu'il est quand même utile d'avoir un peu de vécu, d'avoir un peu d'expérience, et que même en ayant une tête bien faite, ce qui n'est pas le cas forcément de tout le monde déjà à la base, d'avoir un peu d'expérience, d'avoir un peu d'épaisseur humaine est nécessaire pour exercer correctement ces fonctions, qui sont des fonctions importantes, hein, puisque les fonctions, c'est de voter la loi. Donc, pour dire, pour écrire ce qui est permis, la loi, c'est une clôture, c'est une borne, enfin, c'est une norme, ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, bien d'avoir un peu de vécu, d'avoir un peu d'expérience dans le privé, dans le public, d'avoir un peu d'expérience dans la vie, tout simplement. Je considère que c'est effectivement quelque chose d'important. Donc, c'était le conseil des anciens, et c'était 35 ans. Et donc moi, j'étais élu à 46 ans. La moyenne d'âge à l'époque, en 2017, c'était 64 ans. Ça a aussi beaucoup baissé, en fait. Hein. Ça a aussi beaucoup baissé, mais la moyenne d'âge était de 64 ans.
Alors, vous avez dit qu'il y a 348 sénateurs, oui. Mais est-ce que c'est un nombre fixe depuis toujours, ou ça bouge en fonction de la population?
Alors, ça a bougé, hein, c'est une question assez intéressant. Ça a bougé au fil du temps, puisque donc ça se trouve au Sénat, au palais du Luxembourg, ce magnifique palais édifié par Marie Médicis, et qui a traversé plusieurs âges. Et les grandes périodes du Sénat, je dirais, sont passées, malheureusement, comme beaucoup de choses en France. Puisque le Sénat, sous le consulat, sous l'Empire, il y avait 80 sénateurs, c'était personnalités très influentes, très importantes. Après, il y a eu la Chambre des Pairs, ça s'appelait la Chambre des Pairs. Et là, il y avait un peu plus de... On était monté jusqu'à un peu plus de près de 200, donc c'était sous Louis-Philippe.
Victor Hugo faisait partie,
absolument,
d'ailleurs.
Absolument, voilà. Et après, bien sûr, sous l'Empire, donc avec Napoléon III. Et c'est devenu, donc, dans les années 70, donc... le Sénat de la République, et beaucoup de présidents de la République ont été auparavant sénateurs, hein, même sous la Ve République, puisque pendant longtemps, François Mitterrand était sénateur, il y a eu beaucoup de sénateurs connus, et c'était plutôt que l'Assemblée nationale, c'était les présidents venaient du Sénat, puisqu'ils avaient, à l'époque, le président de la République n'était pas élu par les Français, on se replonge en arrière, c'était aussi des grands électeurs qui votaient, et le Sénat, la carrière, moi je n'ai jamais voulu faire dire que je faisais carrière, parce que c'est pas mon cas, mais c'était un élu local, après une fonction de député, et on terminait sa carrière politique au Sénat, au Conseil des Anciens. Et le Sénat donc a grandi effectivement au fil de ces siècles, et 348 sénateurs, donc lors de la dernière, lorsqu'il y a eu des sénateurs de l'étranger qui ont été rajoutés, l'hémicycle étant ce qu'il était, hein, il a subi au fil des années du consulat, des pairs de France, de la République, de la Troisième République, il s'est constitué, il a été fait, et quand il a fallu rajouter les sénateurs, on a trouvé une solution, c'est de diminuer la taille des sièges. Les sièges auparavant étaient certainement très larges, et donc là il y a trois tailles de sièges au Sénat. Si vous regardez avec attention l'hémicycle, un hémicycle vide, vous pouvez même le voir à la télévision, il y a des tailles de sièges différentes, puisqu'il n'a pas été question d'agrandir l'hémicycle, bien sûr. Donc, on a diminué les tailles de sièges. Donc, lorsque vous arrivez au Sénat, on vous regarde, on ne vous mesure pas le tour de taille, mais en fonction de votre gabarit, vous avez un siège. Moi, j'avais un petit siège.
Le 213, c'est ça.
C'est ça. Et j'avais un petit siège. Et mon voisin, mon premier voisin, René Danesi, que je salue, un sénateur d'Alsace, de Haute-Alsace, lui était un grand costaud. Il avait un grand siège, voilà.
Donc, vous n'étiez pas classé, si je puis dire, assis en fonction de vos opinions politiques, mais en fonction de votre gabarit.
Alors, en fonction du gabarit, après... par groupe, puisqu'effectivement, oui, au Sénat, ça se regroupe par groupe, puisque la représentation donc, dans les chambres s'organise par groupe. Et ça permet également d'avoir du temps de parole, d'avoir des moyens d'action. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne.
Alors, la proportion homme-femme ?
Alors, ça varie effectivement en fonction des élections. Je ne pourrais pas vous donner un chiffre exact. Je n'ai pas révisé. Mais les auditeurs peuvent le trouver sur le site du Sénat. Il y a de plus en plus de femmes, puisque maintenant, lorsque l'on fait une liste au sénatorial, la parité est obligatoire. Mais il reste quand même dans le monde des élus plus d'hommes que de femmes. Et donc, par définition, au Sénat, il y a toujours quand même plus d'hommes que de femmes. Par contre, dans toutes les instances après, le Sénat s'attache à féminiser et à obtenir le plus possible la parité. Et dans certaines instances, il y a toujours la parité.
Est-ce qu'on peut se présenter plusieurs fois
Oui.
À la sénature, je ne sais pas comment on dit.
Oui, on peut se présenter plusieurs fois aux élections sénatoriales. Ce jour, Gérard Larcher, qui est président du Sénat, a été élu pour la première fois en 86. Donc il a connu un certain nombre d'élections. Donc il n'y a pas de limitation de nombre de présentations au Sénat. Et les sénateurs sont responsables devant les grands électeurs, qui les réalisent ou ne les réalisent pas.
Alors on dit souvent, ce que j'ai lu et entendu, c'est que l'Assemblée nationale fait de la politique, le Sénat fait du droit.
Alors, ce que j'ai vécu et ce que vous avez entendu a plus qu'un fond de vérité, dans la mesure, et malheureusement, parce que je pense que le spectacle donné par l'Assemblée nationale n'est pas forcément digne. Lorsqu'on regarde la télévision, et vous pouvez imaginer ce que peuvent penser des étrangers qui regardent l'Assemblée nationale. Donc le Sénat, en fait, c'est des personnes normalement qui ont de l'expérience, plus d'expérience. Qui dit plus d'expérience dit un parcours professionnel. Et c'est vrai qu'au Sénat se retrouvent des personnes qui ont été en fonction à la tête de mairies, de départements, de régions, de ministères, ou des personnes qui ont été tout simplement en fonction dans le privé, de par leur parcours professionnel, beaucoup plus de savoir, de connaissances. Et le Sénat est aussi réputé pour avoir des administrateurs d'excellente qualité. On a des juristes d'excellente qualité, on a des anciens conseillers d'État, on a des spécialistes du droit. Et c'est vrai que les lois... Et ça, c'est assez contre-intuitif, parce que les personnes s'imaginent que c'est l'Assemblée nationale ou c'est le gouvernement qui fait... Effectivement, c'est plus le gouvernement qui... C'est plus des projets de loi que des propositions de loi. Projet de loi, ça vient du gouvernement, pardon, et les propositions de l'Assemblée ou du Sénat. Mais en fait, quasi sur tous les textes, le gouvernement demande au Sénat, et peu importe la couleur politique, d'amender, donc de rendre meilleur au sens premier du terme, mais de corriger surtout. Parce qu'il faut voir le Sénat comme souvent une deuxième lecture beaucoup plus conforme au droit que ce qui peut être produit dans certains cas sous l'inflammation médiatique d'un fait divers ou autre. Le problème, c'est que nos lois, moi j'aime beaucoup cette expression qui, je trouve, a du sens, d'un grand de Montesquieu, qui parlait de l'esprit des lois, de ce fameux livre. On est passé de l'esprit des lois aux lois sans esprit, puisqu'il faut se précipiter pour répondre à une pression médiatique, pression de l'opinion, et comme on a des élus et, qui sont de plus en plus, pour moi, dans l'instant, et pas dans le temps long, et pas dans cette notion auquel je tiens beaucoup de bien commun, mais plus de répondre à une préoccupation politicienne présente, et l'Assemblée est beaucoup plus peut-être aussi sous le feu des projecteurs, de moins en moins, je trouve, compte tenu de ce qui se passe. Mais, donc le Sénat, c'est une chambre de plus de réflexion et plus qualitative, et c'est quand même partagé par l'immense majorité de tous ceux qui connaissent les choses. Donc vous avez raison de dire que le Sénat est quand même une chambre où les textes sont beaucoup mieux travaillés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de loupé, il n'y a pas de perfection en ce bas monde. Mais néanmoins, c'est des textes qui sont plus travaillés qu'à l'Assemblée nationale.
Voilà, d'ailleurs, on a vu avec la récente loi sur l'immigration que finalement, le gouvernement attendait du Conseil constitutionnel qu'il invalide certains des articles qui avaient été votés. Donc c'est un peu paradoxal.
Ça pose question sur la démocratie. J'espère que les citoyens peuvent réfléchir. Qu'est-ce que c'est que la démocratie? On choisit ses représentants qui vous représentent, ou on vote par un référendum. Et là, le gouvernement qui fait passer des textes, donc demande en fait au juge de censurer les textes. Donc on demande au juge de censurer la démocratie. Et aujourd'hui, la dérive du pouvoir des juges, c'est pas d'aujourd'hui, mais plus que jamais. Parce que normalement, le rôle du Sénat, de l'Assemblée nationale, de voter des lois au nom du peuple français. Et aujourd'hui, on voit que de plus en plus de textes, et même la présidence ou le gouvernement, demandent au juge de sanctionner des textes qui finalement ne conviennent pas parfaitement. Donc, Qui est-ce qui décide en dernier ressort? En dernier ressort, c'est le peuple. Hein. Normalement, c'est le peuple. Moi qui suis gaulliste, qui reste et qui suis attaché à l'esprit de la Ve République, c'est le référendum et le peuple qui tranche. Eh bien, en France, malheureusement, de plus en plus, c'est à la fois le Conseil constitutionnel qui est sorti de son rôle et le Conseil d'État qui, parfois aussi, de manière surprenante, en fait, produit des textes, puisqu'en fait, ils censurent des lois, ou ils produisent de la jurisprudence. Et même en deçà de ça, des cours tout simplement classiques, que ce soit des cours civils, produisent aussi des normes, des textes, et en fait, qui s'appliquent aux textes produits par le Parlement, que ce soit l'Assemblée et le Sénat. Donc, les juges ont un poids de plus en plus important. Et les juges, ils sont nommés les juges, pas élus. Donc, c'est une question qui se pose. Et je ne parle pas de l'Europe, effectivement, puisqu'en plus, il y a les juridictions européennes qui s'appliquent aux textes français sur tout un tas de matières.
Tout commença en 1789. Cet été, après des siècles de monarchie, la Révolution gronda en France. Des femmes et des hommes, avec une audace magnifique, s'inventèrent un destin commun. Le 26 août, ils énoncèrent au monde la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Après avoir secoué le joug de la tyrannie qui les oppressait depuis toujours, ces femmes et ces hommes prirent les armes pour défendre ce trésor si précieux et rêvèrent à ces trois mots. Liberté, égalité, fraternité.
Alors, une partie du travail des sénateurs consiste aussi à auditionner des responsables ou des experts en matière des politiques publiques.
Absolument.
Par exemple, très récemment, le 12 février 2024, Jean-Marc Jancovici, qui est professeur aux mines de Paris. On écoute le début de cette audition.
Travaux de la commission d'enquête sur les moyens mobilisés et mobilisables par l'État pour assurer la prise en compte et le respect par le groupe Total Énergie des obligations climatiques et des orientations de la politique étrangère de la France. Dans ce cadre, nous entendons aujourd'hui M. Jean-Marc Jancovici, président du laboratoire d'idées Le Shift Project, spécialisé sur les questions relatives à l'atténuation du changement climatique et à la sortie de la dépendance aux énergies fossiles et associé à Carbone 4, cabinet de conseil indépendant dans les enjeux énergie et climat. Avant de vous laisser la parole, pour un propos introductif d'une quinzaine de minutes, il me revient de vous indiquer que cette audition est diffusée en direct et en différé sur le site internet du Sénat. La vidéo sera le cas échéant diffusée sur les réseaux sociaux puis consultable.
Monsieur Meurant, est-ce que vous pensez que les auditions pratiquées au Sénat, comme vous les avez connues, atteignent une intensité comparable à celle des auditions du Sénat américain, par exemple celle de Mark Zuckerberg, patron de Meta, auditionné au Sénat américain le 31 janvier dernier, un sénateur lui a lancé « Vous avez du sang sur les mains ». Et Mark Zuckerberg a présenté ses excuses aux familles des proches victimes des réseaux sociaux. Est-ce qu'au Sénat, c'est aussi sanglant, si je puis dire ?
Alors, j'avais parlé effectivement en première partie du rôle du Sénat de voter les lois. Effectivement, le contrôle du gouvernement aussi, hein, ce que je disais, on n'a pas développé. Donc là, on contrôle le gouvernement par ses auditions de personnalités du privé comme du public. Et tout dépend de la façon dont on interviewe, on interroge les... Mais moi, les personnes que j'ai rencontrées, ce sont des personnes qui ont... on peut dire des choses de manière très violente en restant courtois et poli. Je ne sais pas sous quelle mesure ça a été formulé, mais il y a des questions extrêmement dérangeantes qui sont posées au Sénat. Et après, le Sénat a le pouvoir de transmettre à la justice s'il y a des choses qui sont révélées par les auditions. D'ailleurs, il y a des choses qui sont en cours. Notamment, il y a eu quelques affaires sous la mandature de Monsieur Macron, où il y a des enquêtes du parquet national financier, il y a des enquêtes d'autres natures, je pense à l'affaire Benalla. C'est intéressant, mais c'est quelque part intéressant pour notre démocratie. Moi, je suis très attaché à la démocratie, à l'esprit de la démocratie, à la citoyenneté. C'est que vous avez vu qu'à l'Assemblée nationale, la même enquête, il faut savoir que les enquêtes sont des enquêtes pluripartisanes. Vous avez des personnes qui viennent de tous les horizons politiques pour faire une commission d'enquête. Il y a un président et un rapporteur. À l'Assemblée nationale, la présidente de l'époque, elle est devenue présidente de l'Assemblée nationale. Mais elle était présidente de la commission des lois de l'époque. À l'Assemblée nationale, sur cette affaire-là,
Benalla,
il n'y avait rien à voir. Au Sénat, et le président de notre commission, c'était M. Philippe Bas, un ancien conseiller d'État, il y a quelqu'un de très, très rigoureux. Et, bon, bah, on cherche normalement la vérité. Évidemment qu'il y avait des choses qui étaient quand même surprenantes. Hein. D'ailleurs, il y a eu des condamnations après. Donc on a transmis, après cette enquête, on a transmis à la justice, qui, puisque du fait de la séparation des pouvoirs, hein, je rappelle, exécutif, gouvernement, président et gouvernement, législatif et toute la partie justice judiciaire. Donc on transmet au judiciaire qui fait son travail à la vitesse. Et là, on revient sur la question des juges, puisque les juges se permettent aussi de saisir des affaires ou pas. Donc, il y a des commissions d'enquête qui peuvent être très virulentes. Je pense aussi, et là, moi, j'avais saisi avec un collègue sur les cabinets de conseil, sur McKinsey, avant que le Sénat, parce que j'avais fait un article 40 avec d'autres collègues, nous verrons bien, mais il y a quand même des enquêtes qui sont ouvertes depuis longtemps maintenant, parce que c'est sur l'enquête de 2017, de la présidence de M. Macron, de 2017 et 2022, sur la façon dont a travaillé McKinsey. Sur... Donc il y a des commissions d'enquête qui sont extrêmement dérangeantes, qui peuvent être très poil à gratter, et qui peuvent aussi, en fonction des questions qui sont posées par les interlocuteurs, être... peut-être pas aussi sanglante qu'à l'américaine, mais se rapprocher en tout cas de heurts qui peuvent être très, très rugueux entre des personnes qui ne partagent pas le même point de vue. Mais il faut savoir que lors des commissions d'enquête, les personnes n'ont pas le choix de venir ou de ne pas venir, elles sont convoquées. Si jamais elles ne viennent pas, le Sénat a le pouvoir de transmettre à la justice, et c'est des amendes, et ça peut aller jusqu'à 5 ans de prison. Malheureusement, j'ai trouvé que on se saisissait pas tout le temps de ces possibilités-là. Parce qu'il y a des commissions d'enquête où je sais que des associations, des personnes ne sont pas venues, et notamment des associations, je pense qu'on aurait dû, on aurait dû transmettre à la justice pour poursuite certaines de ces associations. Donc on a aussi des pouvoirs de convocation et de transmission à la justice, et la justice a le pouvoir de faire payer 75 000 euros d'amende, 5 ans de prison. C'est quand même pas rien de ne pas se rendre à une commission d'enquête parlementaire.
Alors, le Sénat a une réputation de sérieux, voire d'austérité. Il y a quand même parfois des moments de détente. Par exemple, le 30 janvier dernier, lors de la lecture du discours de politique générale prononcé au même moment par Gabriel Attal à l'Assemblée nationale. On écoute.
Je suis né en 1989.
Allez-y, monsieur le ministre. Moi, non, mais allez-y.
Si seulement...
Donc, on retrouve M. Meurant. M. Meurant, avant d'être sénateur, quel a été votre parcours ?
Je me suis intéressé à la politique par l'histoire. Lycéen, j'étais passionné de l'histoire de France. L'épisode bonapartiste, napoléonien, Saint-Leu-la-Forêt, s'appelait Napoléon Saint-Leu pendant des décennies.
Ville impériale,
que j'ai réussi, lorsque j'étais maire, à faire entrer Saint-Leu dans le réseau des villes impériales avec Rueil, Malmaison, avec un certain nombre d'autres. On était la quatrième ville de France à être dans ce réseau des villes impériales. Donc je suis venu à la politique par l'histoire. Mais moi, je viens du privé, j'ai travaillé d'abord dans le privé. Et il se trouve que ma ville m'a toujours passionné. J'ai toujours vécu à Saint-Leu-la-Forêt. Et donc, il se trouve que j'étais étudiant. Je me suis présenté sur une liste municipale parce que je militais à l'époque. J'étais militant au RPR, je militais. Et donc, j'ai fait des campagnes municipales, départementales, présidentielles, etc. J'ai fait toutes les campagnes. Et puis, donc, en 2001, je suis en numéro 2 sur une liste, on est battu. Mais par contre, je rentre au conseil municipal. Et donc, je découvre ce qu'est un conseil municipal. Et puis, ça me plaît. Et puis, ça m'intéresse. Et puis, comme j'avais décidé de vivre dans cette commune, que j'allais avoir des enfants, et que la personne qui avait été élue maire, je ne partageais pas du tout ces mêmes options politiques générales, mais y compris et surtout sur le plan local, parce que je pense que sur le plan local, lorsqu'on a un bon maire, quelqu'un qui... Ben voilà. Lorsqu'on a un bon maire qui a le bien commun, qui est à l'écoute de la population, qui répond aux besoins de la population, qui est sur le terrain, qui est honnête, qui est droit, qui sait où il veut aller pour la ville, qui veut embellir sa ville, ben voilà. Alors c'était pas le cas à l'époque, donc je me dis c'est pas possible de laisser quelqu'un qui était à l'époque, mais surtout sur le plan local, qui faisait beaucoup, me semble-t-il, beaucoup d'erreurs. Et donc je me forme, je découvre ce que c'est que ce sont les finances locales, je fais beaucoup de choses, et je travaille, je milite, je me fais connaître de la population, et je suis élu en 2008.
Maire de Saint-Leu.
Maire de Saint-Leu en 2008. Je suis élu et je travaille beaucoup, beaucoup. Je mets un peu mon activité, alors j'étais chef d'entreprise avec des salariés, je continue, mais sur mon activité, il faut savoir que je paye moins d'impôts la deuxième année après avoir été élu maire, parce que évidemment, c'est pas ce que les gens s'imaginent hein, lorsqu'on fait les choses correctement, mais ça me plaît. Et je me passionne pour la gestion de la chose publique. Et puis, dans la chose publique locale, c'est du berceau jusqu'au tombeau. Donc, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement vaste. Ça concerne la vie de tout le monde sur toute la période de la vie, avec des hommes et des femmes qui, pour une grosse partie, sont des bénévoles. Les élus, une grosse partie, sont des bénévoles. Donc, c'est une équipe à gérer. Et puis après, bien sûr, une fonction publique à faire fonctionner, à donner du sens, à donner des orientations, à récompenser, à sanctionner négativement. Et on ne fait rien sans la fonction publique. Et j'ai trouvé des hommes vraiment, pour la plupart, hein, dévoués, etc. Par contre, après, et comme dans toute organisation, il faut savoir mettre en place des process, motiver, proposer. Il faut être un chef d'orchestre. Donc, ça prend beaucoup de temps, mais ça m'a passionné. Donc, j'ai été élu en 2008. J'ai été réélu au premier tour en 2014. Et puis, donc, un peu par hasard, parce que je ne pouvais pas voter pour ceux que mon mouvement politique proposait en 2017. Je me suis présenté au Sénat en 2017. J'étais élu. Donc tout jeune, première expérience. J'ai été donc sénateur en commission des finances, ce que j'avais demandé, sur la mission immigration, asile, intégration. J'avais demandé ça et j'étais secrétaire de la délégation entreprise du Sénat. Donc ça m'a permis également de rencontrer tous ces créateurs d'entreprises, tous ces artisans, tous ces membres des commissions, des chambres de commerce, des métiers. Et la France est un pays extraordinaire, passionnant. Et heureusement qu'il y avait ça sur le terrain, parce que on voit un dynamisme, une envie. Sinon, la politique en tant que telle, même au Sénat, est quand même assez désespérante. Parce que ça fait des années que la France souffre des mêmes maux. Toujours plus de dettes, toujours plus d'inefficacité, toujours plus d'insécurité. Et ce sentiment de perte de contrôle de son destin, d'une forme de décadence, il est réel et on ne voit pas les choses évoluer dans le bon sens. Ce qui était vraiment extrêmement intéressant, extrêmement passionnant et réjouissant, c'était de voir toute cette France qui travaille, toute cette France qui est dévouée dans tous les territoires, au fin fond de la Creuse. Enfin, il y a des gens extraordinaires partout. Et qu'est-ce que ça pourrait aller mieux si on trouvait du bon sens et du courage, vraiment.
Voilà, c'est une forme de slogan en forme d'espoir, on peut dire. Alors justement, notre émission se termine déjà, hein, ça passe très très vite. Quel message aimeriez-vous transmettre aux jeunes qui nous écoutent en ce moment ?
Intéressez-vous à ce qui se passe autour de vous, soyez curieux, cherchez, allez aux causes. Ne vous laissez pas avoir par ce que vous pouvez trouver sur les réseaux. Réfléchissez, soyez curieux, lisez. Et après, engagez-vous. On a besoin de tout le monde et surtout on a besoin de jeunes, on a besoin d'énergie, on a besoin de regards nouveaux, mais on a besoin surtout d'être curieux à l'écoute des autres. Donc soyez curieux, réfléchissez, lisez, engagez-vous. L'avenir sera celui que vous ferez et on ne fait rien tout seul. Donc c'est collectivement qu'on peut faire les choses.
Très bien, je vous remercie, monsieur
Meurant. Merci à vous.
C'était Didier Delatte sur IDFM Radio. Vous retrouverez la playlist complète des illustrations musicales sur le podcast de l'émission en ligne sur le site d'IDFM. La semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous compte. Culture, solidarité, environnement, il s'en passe de belles dans notre département et dans notre rendez-vous compte, évidemment.